Bien, on va donc démarrer ce troisième cours en fait sur l'interface chimie des matériaux, biologie, médecine. Donc ce troisième cours que j'ai intitulé Approche biomimétique des matériaux, j'aurais également pu l'appeler également bio-inspiré parce que vous allez voir que en fait ces deux approches se recouvrent très nettement. Alors au niveau des approches biomimétiques, quand on regarde la littérature de façon assez large, on peut y trouver en fait deux types d'approches selon en fait les formations des chercheurs qui participent à ce genre de recherche. Ce que j'appellerais l'approche physico-chimie, où généralement il faut d'abord décoder les paramètres physico-chimiques et structuraux responsables de l'effet ou des effets, copier le concept et développer ensuite des systèmes ayant des propriétés, je dirais, similaires ou meilleures. Et en général, ce que l'on trouve déjà dans la littérature aujourd'hui, puisque ce sont des travaux qui ont commencé, je dirais, dans les années 85, donc vous voyez, ce sont des travaux relativement anciens, mais qui se sont, je dirais, fortement améliorés. Vous allez en voir un certain nombre d'exemples. Et donc la deuxième approche, c'est ce que j'appellerais l'approche chimique. Donc l'approche chimique, c'est de décoder les paramètres chimiques et biologiques associés, vous voyez, à la formation du matériau, du biomatériau ou du système. Donc il y a une analyse en fait des puces, des modes de construction. Alors une fois qu'on a identifié certaines étapes et les composés qui sont importants, on essaye de synthétiser certains de ces éléments, de construire des matériaux en tenant compte de cet apprentissage et en particulier en se servant soit d'approches que j'appelle intégratives, soit de couplage chimie-procédé. Et dans ce cadre-là, quand on regarde la littérature, même si c'est un domaine qui est bouillonnant à l'heure actuelle, on regarde les résultats, je dirais que les constructions, pour l'instant, malgré tout, restent encore naïves. Alors, donc, je vais traiter une partie, en fait, des approches biomimétiques que j'ai un peu classé dans les approches physico-chimiques. Et à la fin, si j'ai le temps, je commencerai à traiter les approches chimiques. Mais de toute façon, j'ai prévu en fait un autre cours dans la session de l'année prochaine qui traitera de façon un peu plus exhaustive de ces problèmes-là. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ces approches physico-chimiques? Ben, un certain nombre d'exemples que vous connaissez déjà, puisque en général, ce sont des exemples qui sont fortement repris, en particulier par les médias. Bon, la feuille de lotus avec sa super hydrophobie, l'exemple du martin pêcheur, du poisson coffre, l'exemple de la peau de requin. Enfin, tous ces trois derniers exemples concernent plutôt en fait je dirais des optimisations des aspects aérodynamiques et également bon, des aspects sur l'adhésion, et en particulier bon, un exemple qui est très classique, c'est celui de la fleur de bardane qui a finalement inspiré le velcro. Et il y a énormément de travaux sur l'adhésion qui concernent finalement, qui tournent, je dirais, autour de ce lézard gecko. Et donc aujourd'hui, je vais aller très vite en balayant finalement ces exemples qui sont des exemples que je classerai un petit peu comme des exemples grand public pour certains. Et puis je vais m'attarder un petit peu plus sur la partie adhésion. Alors donc l'exemple, je dirais, le plus connu, et je vais aller assez vite parce que vous allez avoir tout un séminaire par quelqu'un qui est expert de tout ce domaine, en fait, c'est David Kierrich, que je présenterai à la fin de cette leçon. L'exemple, je dirais, le plus connu, c'est en fait l'exemple de la feuille de lotus, où finalement, vous avez de l'eau ne mouille pas cette feuille, essentiellement parce que le lotus développe une microstructure qu'on peut faire une analogie, je dirais, avec ce qu'on appelle un tapis de fakir, sauf que dans ce cas-là, le tapis de fakir est microstructuré, et donc, en fait, cette goutte d'eau, en fait, emprisonne une couche d'air en fait qui empêche en fait le système de mouiller. Alors donc il y a eu des tas de travaux, vous voyez, bon typiquement des travaux dans les années 90. Donc d'ailleurs David, tu étais un des co-auteurs de ce travail, hein, qui en fait en mimant finalement les structures de la feuille de lotus, par exemple en créant par des méthodes de physique en fait des plots, des rangées de plots avec un séquençage de l'ordre du micron ou de quelques microns, et éventuellement en hydrophobant finalement la surface, on arrive à obtenir des systèmes qui sont super hydrophobes, vous voyez, avec des angles de contact qui sont très très élevés. Simplement pour vous rappeler une valeur, l'angle de contact de la poêle de Téflon, c'est environ 107 degrés, donc on est bien au-delà sur ces surfaces. Alors bien évidemment, bon, il y a un intérêt appliqué, c'est qu'en fonction de la nature en fait, de la chimie de la surface à texture équivalente, on peut obtenir des revêtements qui sont très hydrophobes, par exemple sur du verre, verre traité, verre non traité, donc pour faire des pare-brises anti-pluie. Donc il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été réalisées un peu dans ce domaine. Et également, si on utilise finalement une chimie plutôt de revêtement hydrophile, à ce moment-là, on peut obtenir des revêtements anti-buée. Et donc, il y a énormément d'applications et au niveau industriel, il y a toujours, j'irais, un intérêt très marqué vers ces systèmes super hydrophobes. Par contre, ces systèmes super hydrophobes, en fait, ce sont des systèmes dans lesquels l'eau n'adhère pas à la surface. En fait, ce sont des systèmes qui évacuent l'eau roule. Alors donc, si on veut à la fois obtenir un système super hydrophobe et de l'adhésion du système, donc qu'il ne mouille pas, mais qu'il reste collé finalement à la surface, eh bien, il faut modifier le tapis du fakir, je dirais, en jouant soit sur la taille et sur l'espacement des clous. Et ça peut être réalisé de la façon suivante, vous voyez, en créant, par exemple, des nanostructures que vous voyez en bas ici de TiO2. J'ai ça qui ne fonctionne plus. Oui, c'est mieux. Donc, des nanostructures de ce type. Et donc, en fait, la composante que vous rajoutez, c'est la composante suivante. En fait, lorsque vous avez des nanostructures, vous emprisonnez en fait des nanopoches d'air. Et donc, le passage de concave à convexe de l'interface air liquide lorsque l'on tire sur la goutte produit une pression négative. Et c'est cette pression négative qui rajoute finalement une force d'adhésion importante au système. Alors, ce genre de système, on peut les développer, par exemple, en utilisant des nanostructures d'oxyde de titane qui peuvent être synthétisées simplement par croissance électrochimique, par anodisation, de la même façon que l'on peut construire également des systèmes de nanotubes par anodisation de l'alumine. En fait, ce sont les mêmes principes. Et donc, vous voyez ici l'échelle, on est descendu d'un facteur 50 sur l'échelle par rapport aux exemples précédents, on est à 100 nanomètres. Et donc, ces systèmes-là, si on les rend hydrophobes au niveau de la surface de la chimie, simplement par une silanisation avec un organosilanisé, eh bien, vous voyez, on obtient une très bonne adhésion de l'eau sur cette surface hydrophobe, je dirais, quelle que soit finalement la position du substrat. Alors, ça, c'était un exemple. L'exemple suivant concerne un exemple, j'irais, très grand public, celui du martin pêcheur. Donc, lorsque le martin pêcheur chasse ses proies, vous voyez, il pénètre l'eau et il passe d'un milieu qui est peu dense, l'air, à un milieu très dense, mais je dirais sans fracas. Bon, il y a très peu d'éclaboussures et la variation de pression est très faible. Et donc, en fait, c'est en mimant finalement les propriétés du martin pêcheur qu'ont été conçus finalement les fuselages des TGV japonais. En particulier, en fait, c'est pourquoi il y avait problème, simplement parce que au Japon, bon, les TGV doivent passer dans de nombreux tunnels. Et donc, lorsque le TGV rentre dans un tunnel à grande vitesse, il passe d'un milieu peu dense, l'air libre, à un milieu fortement confiné lorsqu'il rentre dans le tunnel. Et donc, ça crée finalement une compression de l'air qui entraîne finalement une onde de choc. Et cette onde de choc, elle est gênante, je dirais, pour plusieurs choses. D'une part, bon, parce que pour les voyageurs, ça peut créer en fait des gênes auditives, des vibrations, mais également, ça crée finalement, lorsque cette onde de choc sort du tunnel, ça crée une explosion très marquée, comme un coup de tonnerre, qui faisait finalement très fortement plaisir aux riverains. Et donc, l'ingénieur en fait en charge, l'ingénieur, je dirais, TGV japonais, M. Nakatsu, qui était finalement un ornithologue très très compétent, a fait un petit peu les analogies entre finalement cette aérodynamique du martin pêcheur et la nécessité finalement de modifier finalement le profil des TGV japonais pour diminuer finalement ces problèmes. Et donc, en recalculant finalement les profils aérodynamiques, voici le type de TGV qui ont été... Bon, certains d'entre vous l'ont utilisé plusieurs fois, c'est ce qu'on appelle le Shinkansen, qui ressemble, vous voyez, à l'aérodynamique du martin pêcheur. Et donc, non seulement on réduit fortement l'onde de choc et, bon, toute la partie gêne la gêne auditive et autres est fortement diminuée, mais avec ce genre de profil, on gagne 15% sur la consommation électrique et un gain de vitesse de l'ordre de 10%. Donc, en fait, ça, c'est un exemple un peu grand public. Un deuxième exemple grand public, si vous regardez un petit peu, si vous voulez chercher sur Internet, vous allez trouver, c'est celui du poisson-coffre. C'est un poisson, vous voyez, qui est composé de plaques soudées, donc c'est un corps rigide. Donc, c'est un poisson qui a l'air totalement pâteau, mais en fait, il a des qualités de déplacement exceptionnelles. Alors, les ingénieurs de l'automobile, en fait, ont introduit finalement la forme de ce poisson pour faire des calculs de traînée et des calculs d'aérodynamique. Donc, et à partir de ces formes, en particulier, ils ont trouvé, je crois, des coefficients de traînée de l'ordre de 0,06, très très bas pour ce genre de forme. Ils ont conçu finalement cette voiture, que vous reconnaissez. Et en particulier, non seulement elle associe une très bonne solidité et une bonne légèreté, mais au niveau du faible, le coefficient de traînée est particulièrement faible, de l'ordre de, voyez, de 0,19. Alors 0,19, ça ne vous dit rien, mais lorsque vous comparez ça à d'autres types de voitures, bon, à ce genre de voiture très parisienne pour aller chasser le buffle, vous voyez que le coefficient de traînée est de l'ordre de 0,57. Par contre, dans ce cadre, dans cette voiture qui est justement conçue avec une aérodynamique tout à fait particulière pour diminuer le coefficient de traînée, vous voyez, elle est largement au-dessus de cette voiture qui finalement, ce poisson-coffre qui ne payait pas de mine. Alors, le dernier exemple grand public, c'est celui de la microstructure de la peau de requin. Donc là, ce sont des phénomènes de rugosité qui sont mis en cause, et en particulier, le requin a des possibilités de natation, je dirais, sans traîner, justement avec un minimum de traînée, simplement parce que dans ces rainures, vous voyez les échelles, on est déjà à des échelles assez grandes, de l'ordre de fractions de millimètres, l'eau en fait s'engouffre dans ces micro-rainures, donc ce qui crée en fait des micro-tourbillons qui sont verticaux, et ce qui maintient finalement l'eau près du corps. Et donc cet effet-là en fait entraîne une réduction importante en fait de la résistance à l'écoulement et au fluide. Et donc ce genre de concept a été utilisé de façon, je dirais, plutôt à mauvais escient du côté des combinaisons des nageurs, parce qu'en fait, il a été montré que finalement, ce n'était pas sur l'aspect rugosité qu'il y avait un gain, il y avait un gain au niveau de la compétition, mais plutôt finalement sur des aspects de rigidification du corps. Par contre, il y a des tas de systèmes qui utilisent finalement des systèmes biomimétiques par rapport à la peau de requin, tels que par exemple certains bateaux de compétition, bon, les balles de golf, je vous montrerai qu'il y a une certaine analogie, mais en particulier ce qu'on appelle les riblets d'avion qui ont été développés maintenant il y a déjà un certain nombre d'années, vous voyez, par exemple par Airbus, donc avec des structures latérales qui sont simplement des structures en plastique qui sont collées en fait sur les ailes de l'avion, qui réimitent finalement ces textures de type peau de requin. Et au niveau des gains, vous voyez, bon, même si ce n'est pas extraordinaire, bon, au niveau de la traînée aérodynamique, on gagne à peu près 8%, et ce qui fait à peu près un gain de consommation de 2 tonnes de carburant sur un vol long courrier. Donc 2 tonnes de carburant, c'est vrai que par rapport à la consommation d'un vol long courrier, ça reste modeste, ça fait à peu près 1,5-2%, mais ce n'est pas négligeable. Donc la balle de golf, je vais passer assez vite, mais la réduction de la traînée de la balle de golf, elle est également due finalement à cette structure particulière, en particulier au début du siècle, on pensait que finalement les meilleures balles de golf du siècle dernier, pardon, étaient des balles totalement lisses, et on s'est aperçu que finalement c'était les balles usagées qui étaient les plus intéressantes, qui allaient le plus loin, et à partir de là, on a construit justement ces balles alvéolées pour justement diminuer les effets de traînée et obtenir en fait des balles plus performantes. Maintenant, donc, je voudrais centrer ma leçon sur les aspects d'adhésion, et en particulier en prenant comme exemple des animaux, en fait, en partant des petits insectes jusqu'aux lézards. Donc l'adhésion, l'origine de l'adhésion, c'est essentiellement les interactions de Van der Waals. Donc ce sont des interactions qui sont communes et très diversifiées. En particulier, elles sont basées sur des problèmes de dipôles qui sont soit permanents, soit des dipôles induits. Et donc, ce sont des interactions qui peuvent être attractives. Donc ça, ce sont les composantes principales. Et également, les problèmes d'adhésion, leur source peut être, peuvent être générés par des problèmes associés à des forces capillaires. Et dans le cas, en fait, où certains donc, de ces insectes ou de ces lézards pourraient finalement réaliser des sécrétions. Alors, les interactions de van der Waals, en fait, lorsqu'on veut augmenter finalement ces interactions pour augmenter l'adhésion, je dirais le critère, c'est d'augmenter finalement la densité du nombre de points de contact. Donc ça veut dire que finalement, augmenter la densité du nombre de points de contact, c'est d'aller vers des systèmes microscopiques, voire nanométriques. Et on peut également jouer sur la qualité du contact, en particulier en jouant sur la chimie de surface, mais c'est surtout, en fait, dans beaucoup d'exemples, c'est surtout l'augmentation de la densité du nombre de points de points de contact qui est importante. Alors là, je vous montre un exemple que j'ai trouvé assez amusant. J'en avais discuté avec Serge Berthier, qui était, vous rappelez, le conférencier qui est venu le premier jour, la première leçon de ce cycle. En fait, cet exemple, c'est un exemple de papillon de nuit, le Cydia pomonella. Et donc, c'est un papillon qui adore finalement se fixer sur les pommes et sur les feuilles. Et en général, les substrats sur lesquels il se fixe sont fortement lisses, très lisses. Donc, en fait, il lui faut des qualités d'adhésion remarquables et donc il déploie un grand nombre d'une surface très importante et via des forces de van der Waals, finalement, ça lui permet d'adhérer à ces substrats variés. Mais bon, en fait, il y a un deuxième problème, c'est qu'une fois que l'animal, finalement, a adhéré au substrat, eh bien, il faut qu'il puisse s'en libérer. Et donc, parce qu'il faut d'une part qu'il puisse se décrocher et puis bon, éventuellement qu'il puisse se mouvoir. Et donc, en fait, c'est assez intéressant comme système. En fait, les pattes de cet animal se terminent par des petits coussinets gonflables que vous voyez ici. Ces coussinets sont striés. Là, vous voyez le coussinet gonflé. Hein. Et donc, lorsque le papillon veut se décoller, ce qu'il fait, c'est qu'il dégonfle finalement. Il dégonfle lorsqu'il adhère. Et il gonfle les coussinets lorsqu'il veut se décrocher, simplement parce qu'en gonflant les coussinets, finalement, il diminue fortement, il augmente en fait ses stries avec le diamètre de ses stries d'un facteur 2, donc ce qui réduit finalement dans les mêmes proportions la surface de contact, et donc de ce fait réduit les forces d'adhésion. Donc en fait, la plupart des systèmes que je vais vous montrer, il y a deux parties importantes. Il y a d'une part l'adhésion elle-même, et il y a le décrochage, finalement, la partie dynamique de l'adhésion, qui est loin d'être négligeable, et c'est un facteur très important. Alors, si on regarde maintenant l'adhésion, justement, des petits insectes jusqu'aux lézards, eh bien, on s'aperçoit qu'en fonction de la masse, vous voyez, ce que vous voyez ici, ce sont des clichés de microscopie électronique qui sont en fait une microscopie des extrémités. Eh bien, en fonction de la masse, donc du poids du corps, quand on passe par exemple du scarabée au lézard, eh bien, vous voyez que les soies terminales sont de plus en plus ramifiées. Donc, il y a vraiment un facteur d'échelle et une multiplicité qui augmente lorsque la masse augmente. Hein. Donc ça, c'est une observation relativement globale. Et si on essaye de la quantifier par un graphe dans lequel on a reporté ici, vous voyez, le nombre de points de contact pour une surface de 100 micromètres carrés, en fonction de la masse de l'animal en grammes, vous voyez, eh bien on retrouve à nouveau cette évolution, c'est-à-dire que le nombre de points de contact, augmente de façon très grossièrement, linéairement avec la masse. Vous voyez, il y a une relation lorsque l'on passe, par exemple, des scarabées aux mouches, aux araignées, aux lézards. Alors, si on fait le calcul très grossier, je dirais, un calcul vraiment à la louche, pour un homme de 80 kg, une femme de 80 kg, eh bien, ça représente finalement 6 millions de spatules sur 100 micromètres carrés, en considérant qu'on construit, en fait, je dirais la partie adhésion avec des spatules de 3 nanomètres qui paraissent en fait un peu la taille minimum que l'on peut facilement concevoir au niveau procédé. Ce qui veut dire qu'on aurait un nombre total, en comptant les pieds et les mains, je dirais de 5 10 puissance 13 contacts. Alors quand on recalcule la force, eh bien, on retrouve une force de l'ordre de plusieurs dizaines d'atmosphères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'adhésion, mais c'est fini, vous ne pouvez plus bouger. Hein ? Donc, à nouveau, j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de... Il y a toute la dynamique de l'adhésion, et c'est peut-être la dynamique de l'adhésion, vous voyez, je vais vous montrer quelques exemples, qui finalement mériterait finalement un véritable travail de recherche, parce que c'est ce qui a été le moins travaillé à l'heure actuelle. Alors, si je reviens sur le GECO, donc le lézard GECO, qui arrive donc à se tenir sur des surfaces lisses, perpendiculaires au plafond, même sur en utilisant qu'une seule patte, eh bien, lorsque l'on regarde finalement la structure en fait de ces pattes, vous voyez, donc elles sont constituées de lamelles. Ces lamelles, en fait, c'est toute une structure hiérarchique de soie qu'on appelle des setas. Et ensuite, vous avez chaque micro soie peut se redécomposer en environ un millier de spatules. Hein. Donc vous avez finalement une structure hiérarchique avec, vous voyez, une augmentation finalement de la surface de contact de façon très très importante, et c'est ça qui va permettre justement une très bonne adhésion. Alors ça c'est une autre vue de ce genre de lézard, hein, donc où on revoit finalement les différentes échelles, les différentes hiérarchies accessibles. Alors si on regarde maintenant, il y a eu des mesures physiques qui ont été faites sur les propriétés d'adhésion de ces animaux-là. Alors par exemple, pour une patte de GECO, donc surface d'un pied, vous voyez des surfaces de l'ordre de 100 mm², eh bien, l'adhésion pour une patte, on trouve une force mesurée de l'ordre de 10 newtons, ce qui revient finalement par soi, je dirais, à des forces de l'ordre de 200 micronewtons. Hein. Et ensuite, si on mesure, on peut aller jusqu'à mesurer, vous allez voir un exemple dans quelques minutes, l'adhésion pour une nanospatule, on trouve des forces qui se répartissent dans cette gamme entre 50 et 200 newtons par mètre. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, bon, c'est de trouver en fait les conditions et les causes physico-chimiques de cette adhésion, mais il faut qu'il y ait une possibilité de déplacement, et en particulier, donc la plupart de ces animaux, et en particulier le GECO, en fait, l'adhésion est induite par cisaillement, et c'est grâce à ce cisaillement que l'adhésion est commutable, en fait. Hein. Et donc, en plus, je dirais, indépendamment de l'aspect nanostructure anisotrope et très grande surface, les surfaces des pattes de GECO sont auto-nettoyables. Donc, vous voyez, arriver à réaliser des systèmes qui présenteraient finalement de façon optimum, et vous allez voir, les systèmes que je vais vous montrer sont loin d'être optimum, ce genre d'adhésion avec sa dynamique, c'est un thème particulièrement intéressant et important. Alors, un autre point que je souhaiterais mentionner, finalement, c'est l'évolution, en fait, des propriétés d'adhésion en fonction, finalement, des surfaces selon, je dirais, que l'on parle de surfaces massives, de micro ou de nanostructures. En fait, ce que l'on observe, c'est en fait que lorsque la diminution de la taille, lorsqu'on diminue la taille des éléments de la structure, d'une part, il y a une diminution de la sensibilité de l'adhésion à la forme des extrémités au contact, donc c'est moins exigeant sur la forme, mais en particulier, ce que je vous ai reporté sur ce transparent, c'est l'évolution finalement des propriétés mécaniques. À droite, vous avez les matériaux qui sont durs, avec des modules Young, donc des coefficients qui traduisent en fait la dureté de l'ordre du gigapascal. Et à gauche, vous avez des matériaux mous, voire très mous, voire collants, hein, avec des modules qui sont de l'ordre de quelques centaines de kilopascal. Mais le fait qui est particulièrement intéressant, c'est lorsque, pour un même matériau, par exemple la bêta-kératine, qui est en fait le matériau qui compose finalement les pattes du GECO. Vous voyez, en massif, c'est une réponse qui correspond finalement à un matériau dur de l'ordre du gigapascal. À partir du moment où vous descendez au niveau des échelles et que vous allez vers des systèmes micro, voire nanostructurés, eh bien, vous vous déplacez, je dirais, du matériau dur vers le matériau mou pour arriver dans une zone où le matériau peut être adhésif, voire collant. Et donc ça, c'est un trait général. Bon, c'est ce qui se passe dans le cadre de ce polymère, la bêta-kératine. Mais également, par exemple, si vous prenez un polyuréthane massif et que vous vous déplacez au niveau de la structuration vers en fait, l'augmentation des surfaces, eh bien, vous rapprochez du domaine où, finalement, vous allez récupérer une certaine adhésion. Alors, et pourquoi, finalement, ces surfaces micro ou nanostructurées présentent des propriétés d'adhésion intéressantes? En fait, il y a cinq points particulièrement importants. D'une part, la contribution au travail d'adhésion. Ces systèmes sont plus résistants au décollement simplement parce qu'on peut plus facilement dissiper l'énergie à la déformation au moment où on les décolle. Également, il y a une adaptation plus aisée aux surfaces rugueuses à partir du moment où on a des nanostructures. Hein, et donc, en particulier, il y a une faible accumulation de l'énergie élastique. Et l'effet de taille est conséquent, c'est ce que je vous ai montré dans plusieurs exemples, puisque finalement, on a des très fortes variations du rapport surface-volume. Également, on a des distributions plus uniformes des contraintes sur un matériau nanostructuré par rapport au matériau massif. Et finalement, l'aspect adhésion est beaucoup moins sensible aux défauts sur les nano et les microstructures que sur les matériaux massifs. Alors, comment peut-on réaliser finalement ces matériaux micro et nanostructurés? Alors, dans la plupart des études, ce que j'ai trouvé à l'heure actuelle dans la littérature, c'est essentiellement de la microstructure dans une échelle qui tourne, je dirais, autour de le micron, la dizaine de microns, la centaine de microns. Il y a encore très peu de travaux qui s'intéressent à la structuration, je dirais, à l'échelle typiquement nanométrique. Alors, les voies de synthèse, bon, ben, il y en a trois principales. Donc, il y a une fabrication, je dirais, que j'ai appelée sans gabarit. C'est, par exemple, des méthodes basées sur de la lithographie par faisceau d'ion ou d'électrons. Des méthodes basées, vous voyez, sur de la déposition chimique en phase vapeur. Donc, on obtient ces microstructures. Également, des méthodes dans lesquelles on utilise un moule qui va servir un moulage donc, sur un gabarit. Ce gabarit peut être une membrane poreuse, une membrane, par exemple, une membrane d'alumine ou une membrane en polycarbonate, et que l'on va imprégner. Et ensuite, bon, on va éliminer la membrane par lavage et donc récupérer la microstructure. Également, bon, donc, ces systèmes-là peuvent être construits sur des gabarits photolithographiés. Il y a également énormément de travaux qui concernent la gravure chimique de gabarit. Alors, bien entendu, vous voyez bien les échelles avec ces méthodologies-là. Pour atteindre des échelles nanométriques, ce n'est pas évident. Il y a quelques travaux, mais il y en a relativement peu par rapport, je dirais, à l'échelle micronique. Et en plus, bon, la plupart de ces structures peuvent être modifiées chimiquement, donc modifiées de la chimie de la surface, soit par ancrage, soit par dépôt de film. Et là, ce sont des méthodes que la plupart d'entre vous connaissent bien, des méthodes de trempage, de spray, de deep coating ou autre. Alors voici quelques exemples justement de matériaux essentiellement des bases polymères qui ont été faits justement en utilisant ces méthodes. Vous voyez, on obtient donc des systèmes microstructurés avec des formes variables, je dirais des inclinaisons variables, en utilisant finalement tout l'arsenal des méthodes physiques plutôt, que je vous ai montré précédemment, de la nanofabrication directe par lithographie, ici en A, de la déposition chimique en phase vapeur, ici en B, vous voyez. Donc la qualité finalement des microstructures, quand on les regarde de très près, n'est pas forcément la même, et la souplesse finalement, de construction n'est pas exactement la même. Également des méthodes qui sont basées, vous voyez, sur la réplication de moules, des membranes poreuses en C. Et justement, ce que je voudrais vous montrer, c'est un exemple qui concerne finalement la construction de systèmes microstructurés pour justement pouvoir tester les propriétés d'adhésion à une petite échelle et de les comparer par exemple aux propriétés d'adhésion de nanospatules biologiques, celles du gecko. Et donc là, vous voyez, c'est une méthode qui est ultra simple. On part d'une cire que l'on perce avec une pointe à FM par exemple, pour créer, vous voyez, un moule, je dirais, structuré. Donc ce moule en jaune va être rempli d'un polymère. une base silicone ou un polyester, et ensuite bon, bah, on démoule et on obtient, vous voyez, ces nanofils, ces nanocheveux, dont vous voyez ici une représentation par microscopie AFM. Alors, lorsque vous utilisez ces systèmes-là et que, bon, finalement, les mesures d'adhésion sont reproductibles et robustes, vous voyez, pour des nano-cheveux dont les tailles ont été ajustées, finalement, elles correspondent, finalement, à ce qu'on trouve dans les nanospatules biologiques, les forces d'adhésion mesurées sur ces systèmes-là se situent entre 60 et 300 nanonewtons, et ça correspond absolument, vous voyez, au domaine des forces d'adhésion qui peuvent être mesurées sur les matériaux naturels. Alors, ce que l'on observe sur ces types de mesures, c'est ce que je vous dis, il y a une faible dépendance des forces d'adhésion avec la nature du matériau, que ce soit un silicone, un polyester, un polyimide, et donc elles sont essentiellement gérées par la surface de contact, parce que, plus que par la chimie, c'est un premier fait. Mais vous allez voir, j'amènerai tout à l'heure un élément un peu en contradiction. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une microscopie électronique qui a été donc d'un scotch type GECO, qui est abondamment développé par une société américaine dont je tairai le nom. Et ce que vous voyez, en fait, c'est le genre de microstructures qui peuvent être faites sur des matériaux qui sont d'usage grand public. Et donc, sur ces matériaux-là, vous avez des adhésifs qui sont particulièrement remarquables. Alors, il y avait un point sur lequel j'ai insisté plusieurs fois. C'est l'aspect dynamique. Finalement, obtenir de l'adhésion, bon, c'est une première étape. On peut rivaliser en jouant sur les microstructures avec certains systèmes naturels. Par contre, si l'on veut pouvoir obtenir des systèmes qui bougent avec une certaine dynamique, eh bien, il va falloir aller chercher un autre type de solution. Et alors, une des solutions qui a été proposée dans la littérature, même si elle est loin d'être optimum aujourd'hui, vous voyez, c'est un travail de 2007, mais vous allez voir au niveau des résultats, ça montre, je vais vous montrer, il y a un effet intéressant, mais ça reste encore, je dirais, un peu primitif, c'est l'utilisation de thermoplastiques à mémoire de forme. Donc un thermoplastique à mémoire de forme, ça peut être par exemple un système de copolymères à bloc, dans lesquels vous allez avoir un bloc dur, par exemple ce bloc de polyuréthane cycloaliphatique, et un bloc mou constitué par ce bloc de polyol, de polytétraméthylène glycol. Et donc vous allez avoir un matériau composite où vous allez avoir des segments durs, que je dirais simplement représentés par ces ellipses noires, et des segments mous qui sont représentés en fait par ces fils. Alors, à partir du moment où vous pouvez ajuster la chimie de telle façon à ce que le segment dur, en rouge ici, ait une température de transition vitreuse relativement élevée, j'irai entre 120 et 140 degrés. De la même façon, le segment mou, vous pouvez choisir un segment mou de telle façon à ce que la température de transition vitreuse soit au-dessus de l'ambiante, mais située en dessous de la température de transition vitreuse du segment dur. Et donc, à partir de ce moment-là, vous allez avoir deux températures qui vont vous permettre de contrôler finalement la malléabilité du matériau, c'est-à-dire que tant que vous allez travailler en dessous de la température de transition du segment dur, votre matériau va garder une certaine tenue. Mais si vous choisissez de le modifier à une température qui va se trouver entre la température de transition du segment mou et celle-ci, eh bien vous allez pouvoir en fait le modifier sa forme, je dirais mécaniquement, de façon très simple. Alors ça, c'est ce qui a été fait par une équipe allemande. Donc vous voyez, créer en fait des micropiliers. On chauffe en fait cet ensemble de micropiliers avec une plaque chauffante à une température de l'ordre de 70 degrés. Donc on va se retrouver au-dessus de la température de transition du segment mou. Et on applique une force, simplement avec une lamelle de verre. Donc ça, c'était un travail qui était fait de façon assez archaïque. Il n'y avait pas une machine qui permettait de contrôler. Et donc, on maintient en fait cette contrainte, on redescend en température, et donc on va bloquer finalement une forme. Et à partir du moment où cette forme va être bloquée, en réchauffant le système, eh bien on va repasser au-dessus de la transition vitreuse du segment mou et on va retrouver finalement la forme initiale. Alors voilà ce que ça donne. Des piliers initiaux, vous voyez, avec des paramètres typiquement dans le domaine micrométrique. Une résistance au pelage qui vaut donc 30 kPa. Et sur ces systèmes-là, vous voyez, on est au tiers du GECO. Bon, on peut être à 100%, mais ce n'est pas le propos. Alors, une fois qu'on a créé en fait cette déformation, vous voyez, cette déformation est stable, on incline les piliers. La résistance au pelage, lorsqu'on incline les piliers, elle tend vers zéro. Et ensuite, on revient en température, et donc les piliers se redressent. Et donc, à ce moment-là, vous récupérez une partie simplement. Je vous disais, c'est un système qui est loin d'être optimum, une partie de la résistance au pelage. Mais donc ça vous permet de voir comment un système peut switcher finalement au niveau de sa qualité d'adhésion entre un système qui adhère et un système qui n'adhère pas. Alors, des applications finalement de ces adhésifs microstructurés, on en trouve un certain nombre dans la littérature et en particulier dans tout ce qui concerne les applications biomédicales. Les patchs adhésifs, en particulier dans la chirurgie de l'oreille, il y a énormément de développement en ce moment. Il y a pas mal de soucis sur les ruptures de tympan et on n'a pas des adhésifs qui sont performants. Ces tissus adhésifs, bien entendu, en modulant, en fait, en choisissant les bons polymères, peuvent être biodégradables et biocompatibles, et éventuellement, ils peuvent avoir des propriétés de vectorisation. Alors, ce que je vous montre ici sur la gauche, finalement, ce sont ce type de tissus qui ont été construits à partir d'un polymère assez simple, polyglycérol sébacète acrylate, vous voyez, et on contrôle, en fait, très facilement la microstructure, et en jouant sur... En jouant finalement sur la microstructure, la taille, le diamètre des plots et l'espacement, eh bien, on va optimiser finalement les propriétés de contact. Ce que vous voyez ici, ce sont des patchs en tissu adhésif. Ça vous donne un petit peu l'échelle à laquelle on peut réaliser ce genre de matériaux. C'est typiquement quelques centimètres. Et au niveau des implants et des tissus, vous voyez, donc, il y a un très bon comportement de ces tissus in vivo et avec, vous voyez, une interface qui est très propre entre le tissu naturel et le tissu synthétique. Donc ça, c'est un exemple. Alors, il y a un autre domaine où les gens s'excitent énormément en ce qui concerne justement ces problèmes d'adhésion, et ce domaine concerne finalement la robotique. Alors pourquoi la robotique? J'ai voulu un peu le mettre en exergue, simplement parce que ça vous montre qu'on aura beau comprendre des aspects physico-chimiques, des aspects chimiques associés au biomimétisme ou à la bio-inspiration, si on veut vraiment se rapprocher de systèmes naturels, il va falloir vraiment imaginer des systèmes complets. Et la robotique, même si ça reste, je dirais, à nouveau naïf, ce que je vais vous montrer, eh bien, c'est une démarche vers un système complet. Alors ça, c'est un travail qui a été fait à Stanford, dans le groupe de Mark Kutkowski, où en fait, ils ont réalisé des robots en intégrant, vous voyez, au niveau, je dirais, de l'adhésion et des pattes, je dirais, tout ce qui était su, je dirais, sur l'adhésion, sur la physico-chimie de l'adhésion du GECO, et évidemment, ce robot est asservi en fait, par un certain nombre de câbles, des contrôleurs. Vous voyez, il y a 12 servomoteurs qui lui permettent finalement de travailler avec 30 degrés de liberté. Il y a un grand nombre de capteurs et d'actuateurs. Et donc, le matériau qui a été choisi, c'est du polyuréthane. Et c'est celui que je vous avais montré sur mon fameux diagramme propriété mécanique en fonction de la taille finalement des éléments lorsqu'on choisit un matériau plutôt dur. Si on se déplace vers des micro ou des nanostructures, là ça va être que des microstructures, eh bien on va le rendre adhésif et collant. Et donc c'est ce genre de matériau qui a été utilisé, vous voyez, pour la partie, je dirais, adhésion, et en plus, bon, avec une certaine adhésion directionnelle, puisque ce sont des systèmes souples que l'on peut incliner. Donc je vous fais grâce, je dirais, du détail de la patte du GECO. Mais vous voyez, donc ça, ce sont la partie, je dirais, qui imite finalement de façon, je dirais, encore très naïve, vous voyez, les extrémités, en fait, des spatules de GECO. Vous voyez, la taille, d'ailleurs, est une taille un peu grande par rapport à la taille, je dirais, obtenue dans le monde naturel. Mais ce sont des systèmes qui présentent finalement une qualité importante, c'est-à-dire que l'adhésion est directionnelle et commutable. Alors maintenant, si l'on regarde la vitesse de déplacement de ce système, et j'insiste, c'est tout un système, alors évidemment, il y a de l'informatique également derrière, hein. La vitesse en montée, c'est 4 cm par seconde, 24 cm à plat. Le nettoyage des spatules, forcément, est nécessaire. C'est un système qui n'est pas entièrement auto-nettoyant. Par contre, la stabilité en usage continu n'est pas mauvaise. Ça peut fonctionner pendant 6 mois. Hein. En particulier, cet usage, je dirais, non continu au-delà de 6 mois est dû au choix, finalement, du polymère. Un polyuréthane soumis à une friction, finalement, ça s'use. Alors, on va quand même comparer. Vitesse du GECO, 1 mètre par seconde. Oui, on en est loin, mais c'est un bon début. Spatule auto-nettoyante et stabilité en usage continu, bien entendu. Il n'y a pas de pâte échangeable. Alors, je voulais simplement vous montrer, en fait, quelques images de comment fonctionne ce robot. Alors, c'est un robot qui fait 300 grammes, une longueur de 30 cm. Je vous ai dit 12 servomoteurs. Qui a donc une adhésion directionnelle et une adhésion qui ressemble à celle du GECO, avec une vitesse, vous voyez, qui n'est pas très très rapide. Et donc les applications qui sont en fait proposées pour ce genre de robots, c'est essentiellement des systèmes qui seraient utilisés dans les nettoyages dangereux ou dans les interventions un peu particulières ou dans des systèmes de contrôle et de sécurité. Alors voilà ce que ça donne, vous voyez, bon, ça va rester très naïf. Ça, c'est une vidéo que j'ai prise sur le site de l'université de Stanford. Donc là, vous voyez, c'est une montée sur un vitrage. Vous allez un peu voir les... Donc vous voyez, l'adhésion directionnelle, le système. Il y a une modulation, finalement, de l'interface qui permet la désadhésion-adhésion. Alors, il y a évidemment énormément de robotique derrière, mais je pense que le domaine, vous allez voir quelques exemples ensuite, le domaine de la robotique associée finalement aux nouveaux matériaux et à l'informatique, il y a énormément de choses à faire. Bon, là, ils parlent de l'aspect capteur, de l'aspect équilibrage au niveau des forces. Donc ça, c'est justement l'adhésion qui, vous voyez, est directionnelle. Du système. Donc là, on voit bien le travail finalement des soies. Alors bon, ben, évidemment, ce n'est pas du 1 mètre par seconde, mais c'est un bon début. Hein. Pardon. Alors ça, c'était le GECO, je dirais, de la génération de la première étude. Alors maintenant... les systèmes qui sont fabriqués plus récemment, je dirais, sont un peu plus perfectionnés, vont un petit peu plus vite, mais en fait sont basés essentiellement sur les mêmes principes. Là, j'ai l'impression qu'on ne voit pas très bien. Non, on ne voit pas bien parce qu'en fait, ça a été testé sur des verres parfaitement lisses, sur ces céramiques parfaitement lisses. Alors, il y a aussi ce genre de système commutable. Bon, pour ceux que ça intéresse, si vous allez sur le site de Stanford, il y a une étudiante qui s'est équipée. Bon, elle devait faire de la varap, de mon point de vue, parce qu'elle avait le gabarit pour cela. Et donc, elle s'est équipée, finalement, de ce genre de patch. Et simplement en jouant sur les mêmes mécanismes d'adhésion, elle a réussi quand même à monter, je dirais, une façade de 10 à 15 mètres. Donc vous voyez, bon, à partir du moment, bien sûr, la taille des patchs était recalculée en fonction de la masse de l'individu. Alors, je vous disais que la robotique bio-inspirée ou biomimétique, c'est un domaine qui est en pleine effervescence. Vous voyez, il y a un certain nombre d'exemples, indépendamment de ce robot qui imite le GECO. Vous avez également des insectes volants, des systèmes qui imitent les rongeurs ou les homards ou bien des humanoïdes, des systèmes tentacules de purée. Pour ceux que ça intéresserait, je pourrais vous fournir les références. Mais vous voyez quand même, lorsqu'on regarde, il y a énormément de travail assez récent. C'est du 2012-2013 et il y a maintenant de très forts couplages avec, je dirais, les sciences numériques et l'informatique. Et donc, je pense que les générations qui vont, les futures générations verront de plus en plus, enfin, l'utilisation domestique de ce genre de choses. Alors, je voudrais juste mettre un petit peu de contradiction dans le propos, c'est de dire que je vous ai dit que, bon, finalement, l'adhésion, elle est essentiellement basée sur l'utilisation de ces forces de Van der Waals, ça reste juste, mais En particulier, on a besoin de vraiment de microstructurer les systèmes, voire de nanostructurer les systèmes pour optimiser l'adhésion. Alors, pourquoi ? Parce que finalement, l'adhésion sur ces systèmes, il y a également une certaine facilité associée à la commutation des systèmes. Par contre, si l'on veut simplement avoir des systèmes qui adhèrent, avec des qualités d'adhésion équivalentes au GECO, on n'est pas obligé de microstructurer les systèmes. Alors ça, c'est un adhésif composite qui est non microstructuré, qui est basé, vous voyez, sur du polyuréthane ou du polydiméthylsiloxane, donc des matériaux qui peuvent être, je dirais, relativement mous, avec des fibres de carbone. Et donc, ce sont en fait des coussinets moelleux en élastomère qui sont tissés dans un tissu rigide. Et donc, ils ont été optimisés au niveau du procédé, et donc là, c'est simplement du procédé, de telle façon à maximiser les contacts, à maintenir la raideur et assurer, finalement, une liberté de rotation dans un plan. Alors, voilà ce que ça donne. Au niveau de l'adhésion, vous voyez, on peut obtenir des systèmes qui supportent avec un patch, je dirais, de 100 cm² collé sur une surface lisse. Ce sont des systèmes qui peuvent supporter plus d'une centaine de kilos. Et dans l'article, il était même mentionné qu'on pouvait aller jusqu'à plusieurs centaines de kilos. Alors, ces systèmes-là ont été construits finalement sur des modèles dans lesquels on a montré une certaine linéarité entre la capacité d'adhésion, donc la force d'adhésion, et je dirais la compliance du système, donc l'inverse de la raideur. Et ce qui a été mesuré en fait dans un grand nombre de systèmes naturels, vous voyez, ce sont des criquets, des geckos, des scarabées, il y a une linéarité finalement, ça c'est une échelle log-log, en fonction de cette force durable maximum et de la compliance du système. Et donc c'est en utilisant finalement ce type de loi d'échelle que ces chercheurs en polymère ont conçu finalement ces matériaux. Alors quand on reporte la même évolution, donc la capacité d'adhésion en fonction de la compliance, pour des données de systèmes naturels, c'est en vert, et pour les systèmes, vous voyez, synthétique, eh bien, on retrouve une cohérence qui est relativement bonne, si ce n'est voire parfaite. Et ceci, vous voyez, sur 14 ordres de grandeur. Et donc ça, c'est un système qui a permis de développer des adhésifs de très haute qualité. Donc ça, c'est simplement une image de communication. Évidemment, c'est ce que je vous ai dit au départ, on a gagné énormément sur l'adhésion, mais sur le mouvement, il faut envisager les choses totalement différemment. Alors, dernier transparent sur les aspects adhésion, et je vois que la pendule tourne, et donc j'aurai pas trop de temps pour traiter la seconde partie, c'est un petit peu de contradiction. Je vous ai dit que finalement, dans ces systèmes, entre les insectes de petite taille et les lézards, ce qui a été reporté dans la littérature, c'est qu'essentiellement, l'adhésion pour les insectes de petite taille pouvait être complémenté par des problèmes de force capillaire et de sécrétion, alors que pour les lézards de plus grande taille et les araignées, eh bien, dans ce cas-là, c'était essentiellement des forces de Van der Waals qui étaient en fait la force motrice de l'adhésion. Alors j'ai trouvé un travail très récent, c'est un peu pour ça que j'aimerais le citer, parce que ça amène un petit peu une certaine controverse. C'est un travail, vous voyez, de fin 2012, où en fait en utilisant de la spectro de masse essentiellement, donc, et sur des substrats parfaitement propres, ces chercheurs ont pu finalement identifier les empreintes de GECO, vous voyez qu'on voit ici, et par analyse, je dirais par spectro de masse, par analyse, en fait il y a des dépôts qui, au niveau de la formulation, ça correspond essentiellement à des phospholipides. Donc je ne veux pas dire que, attention, dans l'adhésion, il peut y avoir des composantes également chimiques, mais je pense que c'est un domaine qui est en pleine évolution et que même si jusqu'à maintenant l'essentiel de la compréhension et de la maîtrise de tous ces phénomènes avait une base plutôt physico-chimique, je dirais qu'il ne faut pas oublier que la chimie peut également jouer un rôle. Alors j'en arrive à la toute dernière partie de l'exposé, donc des approches biomimétiques, des approches chimiques. Alors je vais vous montrer, je vais aller assez vite parce que c'est une partie que je reprendrai dans un cours de l'année prochaine, des constructions qui restent encore assez naïves. Alors bon, donc les constructions naturelles fascine très clairement les chimistes. Hein, ce que vous voyez ici, ce sont des coccolithes ou des coraux. En fait, ce sont des systèmes, des structures hiérarchiques magnifiques à base de carbonate de calcium. Également ici, ce sont des coquillages d'abalone en carbonate de calcium. D'autres matériaux dont nous avons parlé dans les leçons précédentes, donc à base de phosphate de calcium. Donc ça, ce sont des modèles en fait de construction qui fascinent les chimistes. D'autres modèles dont vous avez souvent entendu parler, ce sont les radiolaires, par exemple, donc qui sont à nouveau des systèmes naturels. Donc ce sont des algues phytoplanctoniques dont finalement la coque de protection est essentiellement construite en silice. Donc vous avez également d'autres types d'algues. Vous avez les fameuses diatomées dont en particulier Jacques Livage vous a parlé très longuement. Alors vous voyez, si je reviens donc aux structures de type coccolithe, structure hiérarchique en carbonate de calcium. Hein. Le carbonate de calcium, c'est la composante, c'est de la craie en fait. Hein. Vous voyez, donc des structures qui sont magnifiques. Bon, on peut dire que c'est un peu aussi de l'archimie. Mais globalement, le questionnement des chimistes, c'est d'arriver finalement à commencer à comprendre quelles sont les règles de construction. Et alors finalement, on en est très loin, pour être très honnête. Alors ce qu'on sait, en fait, c'est que certains de ces systèmes sont formés via l'association de nanocristaux, de cristaux de petite taille, via des mécanismes que l'on appelle des mécanismes d'attachement orienté. En fait, ce ne sont pas des systèmes qui sont obtenus par nucléation et croissance directe. Et donc, en fait, ces systèmes rentrent dans la catégorie de ce que j'appelais les mésocristaux. Donc ça, ce sont des cours que j'ai présenté l'an dernier. Donc, un mésocristal, ça se distingue en fait d'un cristal classique de la façon suivante. Dans un cristal classique, vous avez une étape de nucléation puis de croissance pour arriver au monocristal. Donc ça, c'est ce qui est décrit finalement dans tous les livres universitaires. Mais vous avez beaucoup de systèmes qui finalement suivent un chemin différent, c'est-à-dire que vous avez en fait formation de germes, mais en fait, ces germes-là peuvent avoir une croissance inhibée en présence de polymères ou de molécules organiques, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais simplement, ils ont une stabilité suffisante pour ensuite former, via de l'auto-assemblage, des mésocristaux. Alors là, j'ai choisi un mésocristal de carbonate de calcium pour que tout le monde voit très clairement que ça ne peut pas être un monocristal, puisqu'on voit non seulement les composantes, je dirais, nanométriques. Vous voyez cette granulométrie, mais en plus, ce sont deux tétrades qui sont, je dirais, enchevêtrés l'un dans l'autre, et ça ne correspond pas du tout à la symétrie de la calcite. Alors donc, des systèmes biomimétiques ou bio-inspirés, ben, je vous ai également parlé des biomorphes l'an dernier. Donc ce sont ces structures, vous voyez, qui sont magnifiques en forme de feuilles ou qui ressemblent un petit peu à des coraux ou de tresses. Et donc, à nouveau, ces systèmes-là, bon, il y a eu énormément d'études qui ont été faites. Elles sont basées, vous voyez, sur des systèmes élémentaires. Ce sont des coprécipitations entre du carbonate de barium et de la silice. Et donc, on atteint des formes qui sont complexes. En fait, c'est le domaine de la complexité via la simplexité. Parce que finalement, la réaction chimique de base, c'est simplement une réaction de carbonatation et une réaction de précipitation de silice. Évidemment, ce qui est complexe, vous allez le voir, c'est la dynamique de ces affaires-là. Alors donc, comment sont formés ces biomorphes? Essentiellement, vous voyez, en précipitant du carbonate de barium et de la silice dans une certaine zone de pH. Alors, ces deux réactions de précipitation sont contrôlées par le pH, mais pas exactement au même pH. Quand il y en a une qui s'enclenche, elle modifie le pH qui permet à l'autre de démarrer, et ainsi de suite. Alors, ce que l'on forme, vous voyez, dans une première étape, ce sont des nanocristaux de carbonate de barium, des petites tiges allongées. Et ensuite, ces nanocristaux, finalement, ils sont enrobés dans une première étape par de la silice, puisqu'on a modifié le pH de surface. Et cette modification entraîne une modification à nouveau du pH et une seconde précipitation des nanocristaux de carbonate de cristaux. Donc, ça, vous voyez, ce sont des systèmes où on a des petits cristaux qui sont enrobés et le système, finalement, se propage par vagues. Et donc, comme vous avez des systèmes anisotropes, c'est ce que je vous ai raconté dans la leçon précédente, à partir du moment où vous avez des systèmes anisotropes avec la bonne fraction volumique, c'est-à-dire que vous avez des allumettes pour les mettre dans une boîte, eh bien, vous voyez bien que vous n'allez pas pouvoir les mettre dans n'importe quel sens. Il va y avoir un ordre, un certain axe directeur. Et donc, dans le cas présent, comme vous avez des objets anisotropes à une certaine fraction volumique, eh bien, ces systèmes vont s'organiser sous forme de nappes de cristaux liquides. Et donc, vous voyez, ce sont des nappes qui croissent avec des vitesses de l'ordre de quelques microns par minute. Et ce qui est intéressant, donc ça, je passe assez vite parce que c'est quelque chose que j'ai détaillé fortement dans le cours de l'an dernier et que je reprendrai dans le cours de l'année prochaine. Alors, les formes obtenues, la chimie, elle est simple. Enfin, elle est facile à comprendre. Il y a deux réactions chimiques et deux réactions qui se couplent. Alors, ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que finalement, la dynamique, l'hydrodynamique de la nappe, c'est-à-dire de la façon dont la nappe épouse le bord, ça fait comme une espèce de nappe, comme une vague de surf, en fonction, je dirais, de l'auteur des deux vagues, si elles tournent dans un sens ou dans un autre. C'est ça qui va générer la forme. C'est ça qui va générer la forme finale. Alors, bon, on peut obtenir, vous voyez, ça, c'est du pur minéral, hein, c'est des formes en coraux. Et ça, c'est le corail tel que vous le connaissez. Ça, ce sont à nouveau des carbonates de barium construits sur le même mode, dans lequel, finalement, on a changé le procédé de telle façon à faire varier, non pas la chimie, c'est toujours la même, chimie élémentaire, deux réactions de précipitation. C'est simplement l'hydrodynamique qui a été changée pour justement permettre de développer ce genre de force, de forme. Alors, ce sont des formes en fleurs. Alors, évidemment, c'est des crichets de microscopie électronique à balayage et elles ont été coloriées. Hein, je vous rassure, pour les non-spécialistes, ça ne se présente pas du tout comme ça, bien entendu. C'est pour faire un petit peu plus beau qu'on a colorié, en fait, certaines parties. Mais vous voyez bien que on peut générer des formes complexes, des structures hiérarchiques, avec, je dirais, en combinant finalement une chimie relativement simple et de l'hydrodynamique. Donc ça, ce sont les exemples sur les diatomées avec ces fameuses structures hiérarchiques. Hein. Donc lorsque je vais passer d'une photo à l'autre, eh bien, je vais agrandir finalement, augmenter l'agrandissement du microscope. Et vous allez voir, ce sont des structures fortement poreuses, hein, avec des pores dont les tailles varient, je dirais, de quelques centaines de microns aux microns, à quelques centaines de nanomètres, et lorsque vous regardez en détail les parois de ces objets-là, eh ben, ils sont construits d'agrégats, finalement, de toutes petites particules de silice de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Un mésocristal amorphe, si on veut dire. Alors, donc, reproduire, finalement, ces structures de diatomées, à nouveau, les démarches restent naïves. Il y a des reproductions qui sont basées simplement sur des réactions de conversion. C'est-à-dire, voici, on part d'une diatomée en silice. On veut reproduire en fait cette forme et changer la composition parce qu'on vise un matériau, par exemple piézoélectrique, qui a des propriétés plus intéressantes. Eh bien, on va faire une première réaction chimique avec un fluorure de titane, puis une oxydation, pour passer à l'oxyde de titane. Et ensuite, dans un deuxième temps, bon, par réaction d'insertion du barium en milieu basique ou du strontium, on va passer au titanate de barium. Donc vous voyez, ça reste naïf, on arrive à garder les formes. Ce sont des réactions bien connues d'échanges qui peuvent être faites non pas sur des diatomées, mais sur des systèmes des monolithes ou des systèmes nanoparticulaires. Alors une deuxième façon de reproduire ces structures hiérarchiques, c'est d'utiliser finalement des moules, des templates que l'on peut faire par une impression en 3D. Donc on peut construire finalement, vous voyez, des structures très variées, assisté par ordinateur. Donc ça, c'est la diatomée, je dirais, de base. Ça, c'est un semblant de diatomée, je dirais, qui a été construit par ordinateur. Et ensuite, donc, on peut imprégner finalement ces moules, donc ces gabarits, avec, par exemple, une source d'acide silicique. Donc là, pour ceux que ça intéresse, les systèmes polymériques qui permettent de conduire à la formation de ces gabarits, ce sont simplement des systèmes, des polyélectrolytes qui sont déposés layer by layer. Alors voici ce que l'on obtient, vous voyez, sur des silices 3D, après traitement thermique à 1000 degrés, puisqu'on a éliminé les parties organiques. Donc on peut reproduire des choses qui ressemblent, mais ça reste encore très naïf. Alors une autre façon de jouer justement sur les formes, c'est d'utiliser finalement les couplages chimie procédés en utilisant par exemple des processus d'auto-assemblage, et dans le cas présent, c'est de l'auto-assemblage qui va être induit par un procédé aérosol. Et donc, la seule chose, c'est qu'on va utiliser finalement comme élément permettant l'osso-assemblage des gabarits de différentes tailles avec différentes fonctionnalités. Et voilà, on va pouvoir obtenir, vous voyez, des choses assez amusantes, des agrégats contrôlés. Donc ça, je reviendrai dessus l'année prochaine, donc je vais un petit peu vite. Ou bien des bagels tout à fait particuliers. Voilà, donc j'arrive à la dernière, au dernier transparent. Donc dans ce domaine donc de construction de systèmes hiérarchiques un petit peu complexes, il y a beaucoup d'excitation à l'heure actuelle dans le monde de la chimie et des matériaux. Pour être très honnête, les constructions qui se développent pour l'instant restent encore naïves, mais bon, ce qui est bien, c'est que je dirais que ça ouvre finalement un certain nombre de perspectives. L'année prochaine, je prendrai les diatomées comme modèle, et donc c'est une leçon, enfin je ferai une heure entière sur ce que je viens de traiter en quelques minutes, parce que j'estime que c'est un domaine qui est intéressant, indépendamment de l'aspect, de la beauté finalement de ces objets. Alors, en complément finalement à cette leçon, aujourd'hui on a le plaisir et la chance de recevoir donc David Quéré, qui est donc à la fois professeur à l'ESPCI et professeur chargé de cours à l'École Polytechnique. C'est quelqu'un dont je suis les travaux depuis de nombreuses années, hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a vraiment été très impliqué, bon, je pense qu'il a pu passer au collège à un moment également, hein, qui a été très impliqué dans tous les problèmes de mouillage, et en particulier, il a un grand nombre de contacts industriels, parce que les problèmes d'adhérence de mouillage, c'est un problème industriel très très important. Mais vous allez le voir dans son séminaire, en fait, ce qui m'a le plus intéressé, c'est justement quelqu'un qui traite les aspects dynamiques du mouillage. Et finalement, il y a peu de groupes à l'heure actuelle qui, en fait, vont jusqu'à traiter les aspects dynamiques. Alors, ce que je vous voyais, donc, un certain nombre de awards et de distinctions que vous pouvez tous lire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite coupure. J'ai dépassé de 4 minutes, je suis désolé. Mon temps. Donc, on va faire une petite coupure de quelques minutes et dans une deuxième partie, ben, David Quéré va nous faire un séminaire, en fait, justement, sur qu'il a intitulé L'eau sur coussin d'air, de l'effet Lotus aux matériaux texturés. Voilà, je vous remercie pour votre attention.